This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, 1968, année presque mythique, année dont le chiffre est presque devenu un lieu commun. Mythique certes pour les uns, année repoussoir pour les autres, année malentendue pour tous. Car cette année-là, il convient de se replonger dans le climat de l'époque. Le général de Gaulle est président de la République, Georges Pompidou est Premier ministre. La France est un pays qui se veut calme, un petit peu sentant la naphtaline. Et un éditorialiste du Monde écrit au mois de février « La France s'ennuie ». Qui aurait dit que quelques mois plus tard, eh bien, la France serait paralysée ? Alors cette année-là, elle reste à redécouvrir dans la vérité des événements et dans les aspirations qui l'ont animée. Rejet des valeurs traditionnelles, mode de vie des parents inadéquate, rejet globalement de la société de consommation. La culture, la contre-culture hippie a commencé depuis plusieurs années à s'exprimer aux États-Unis et va donc faire tache d'huile en Europe. Cette contre-culture qui se développe est issue de la Beat Generation. Jack Kerouac, Allen Ginsberg inspirent la jeunesse de cette époque. Pacifisme, émancipation, liberté sexuelle, retour à la nature infusent dans cette contre-culture. Et c'est ainsi que cette jeunesse rencontre les travaux de certains philosophes. Il en est un, Herbert Marcuse, exilé allemand, membre de l'école de Francfort, mais qui est donc vit aux États-Unis, publie un livre quelques deux ans avant 68, intitulé « L'homme unidimensionnel ». Il y développe l'idée que, peu à peu, idée qui aujourd'hui est presque devenue banale, peu à peu, la civilisation capitaliste nous amène à n'avoir qu'une seule dimension dans notre vie, l'homo economicus. C'est toute la planète qui est influencée par cette réaction devant une société avec un ordre moral qui a du mal à s'adapter aux innovations et surtout aux aspirations des peuples.
Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues.
On a tous en tête les charges des CRS, les pavés, les barricades, le quartier latin qui s'embrase. Mais les héros de 1968 sont américains, allemands, tchèques. Ils sont aussi africains, du Sénégal ou d'Algérie. Dans les facultés du monde entier, des étudiants se sont révoltés cette année-là. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. À travers leur destin, c'est le monde d'aujourd'hui qui se dessine. Daniel Cohn-Bendit, l'icône insolente du mois de mai parisien, est devenu depuis député européen. Jan Palach, l'étudiant au visage triste, symbole de l'insurrection pragoise, s'est immolé par le feu quelques jours après la fin de l'année 1968.
Une fois de plus, André Malraux, que l'on entendait ici dans un discours, aura été un visionnaire. Il aura compris que c'est l'ensemble de la planète qui est en mouvement et que c'est bien une crise de civilisation que l'on connaît en 1968. Alors ce n'est pas simplement une crise contre l'autoritarisme, comme on a bien voulu le dire, mais c'est profondément un refus d'adhérer à un mode de développement économique et un mode de développement humain tout court. Et c'est ainsi que, toute cette année-là, les mouvements sociaux vont se développer pour les droits civiques aux États-Unis. Le bloc soviétique va être aussi répressif que les pays de l'Ouest, puisqu'on verra que la Tchécoslovaquie va être envahie, prise elle aussi par un besoin d'émancipation. Et donc, c'est l'ensemble des pays qui vont être saisis par ce vaste mouvement de contestation. Alors évidemment, ça va prendre pour nous un aspect particulier, puisque donc en France, très rapidement, en quelques jours, la France va être paralysée. Voici donc la chronologie des événements.
C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre.
Tous au meeting international du 9 organisé par la...
Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté, craignant des incidents. Le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaque. Lundi 6 mai, Daniel Cohn-Bendit et 7 étudiants passent en conseil de discipline. Un quart d'heure plus tard, la police tente de disperser une manifestation de solidarité, en vain. Initiée le 22 mars à Nanterre, la crise universitaire tourne à l'émeute.
Si vous aviez un garçon de 25 ans qui était allé à l'école de 15 à 25 ans...
Les négociateurs vont tenter de calmer le jeu, mais le gouvernement refuse de réouvrir la Sorbonne et les étudiants restent mobilisés.
Je vous demande de faire des lignes jusqu'au front pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout.
Vendredi 10 mai, tout est prêt pour un nouvel affrontement. Au soir commence la première nuit des barricades. 2h du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube, des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations et la désolation au cœur de la capitale. Le Premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, fait alors des concessions.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi.
Mais la révolte déborde du cadre étudiant. Les syndicats ouvriers prennent le relais. Lundi 13, image insolite. Georges Chégui, presque au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit. Derrière, 300 000 manifestants, le plus gros défilé depuis la libération.
Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte.
La Sorbonne est réoccupée par les étudiants. Pendant 3 semaines au cœur de Paris, elle sera l'emblème de la commune de Metz. Mardi 14 mai, les 2000 ouvriers de Sud Aviation près de Nantes votent une grève illimitée et occupent les locaux. Au même moment, de leur côté, les métallurgistes de Renault-Cléon près de Rouen débraillent.
Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, je pourrais un peu me reposer et profiter un peu de la vie.
Commencement de l'âge à la retraite, amélioration, réduction des cadences.
En 2 jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 36. Pour couronner le tout, l'Odéon est envahi par la foule. Pendant un mois, le théâtre se transforme en spectacle permanent.
Quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui accepte de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion.
L'histoire s'accélère. 3, 6, 10 millions de grévistes le 20 mai. Le pays est paralysé. Une décision du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, va de nouveau mobiliser une partie de la jeunesse. L'expulsion vers l'Allemagne de Daniel Cohn-Bendit en pleine crise sociale déclenche le 24 mai la deuxième nuit des barricades. Ces images mêlées au projet avorté de référendum proposé par le général de Gaulle paraissent sonner le glas du régime. Mais c'est un trompe-l'œil. Certes, on relève deux morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants. Le lendemain toutefois, l'homme du jour, celui vers lequel la gauche non communiste et une partie de la jeunesse paraît se tourner, c'est lui, Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil. Mais après le meeting de Charletti, Mendès, la figure de proue du PSU, refuse l'aventure politique. Croyant alors son heure arrivée, François Mitterrand, lui, se jette à l'eau.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place.
C'est dans cette atmosphère trouble que de Gaulle disparaît quelques heures le 29 mai à Baden-Baden. Saisi par le vide politique, la France conservatrice va le soutenir massivement.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
500 000 manifestants sur les Champs-Élysées, après ce succès gaulliste et les accords de Grenelle qui prévoient d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la reprise. Le mouvement va s'effilocher pendant tout le mois de juin, malgré la mort de deux métallos à Sochaux et celle d'un lycéen à Flins. Vendredi 14 juin, la messe est dite, l'Odéon est évacué dans l'indifférence générale. Deux semaines plus tard, les élections législatives consacreront le raz-de-marée gaulliste et une défaite humiliante pour la gauche. Épilogue douloureux pour ceux qui croyaient alors que la vie allait immédiatement changer, ils ne pouvaient pas se douter que leurs idées allaient faire leur chemin dans la société tout entière.
Voilà donc ce qu'il s'est passé dans pratiquement un mois entre deux grandes manifestations, entre deux grands mouvements, un qu'on pourrait qualifier schématiquement de gauche et un que l'on pourrait qualifier schématiquement de droite. Une chambre des députés Bleu Horizon va naître de ces mouvements sociaux et puis des réformes vont être tentées et le tout va probablement provoquer en 1969 le départ du général de Gaulle, puisque au référendum sur les réformes, les Français voteront non et donc le général partira, laissant la place à son premier ministre qui deviendra président de la République, Georges Pompidou. Alors évidemment, ce mouvement n'aura duré qu'un petit mois, grosso modo. Mais en fait, comme le disait le commentaire que l'on vient d'entendre, eh bien, les idées qu'il véhiculait vont infuser la société et peu à peu, les revendications vont se faire jour. Notamment, on peut dire que la revendication liée à la contraception, liée à l'avortement, certains courants du féminisme également, naîtront de ces événements de mai 68. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, non pas à l'image de Luc Ferry qui dit que mai 68, c'était le début de la catastrophe, succède à une société bloquée, une société d'ordre moral, une société très influencée par des comportements religieux. En fait, succède une société beaucoup plus ouverte, vers le monde, vers l'étranger, vers... des comportements plus laïques aussi, avec une certaine liberté qu'incarne la jeunesse et puis toute la société dans son sillage. C'est probablement un mouvement qui aura marqué pratiquement toute la fin du XXe siècle et qui probablement le marque encore aujourd'hui. Aujourd'hui où une nouvelle crise lui succède, mais qui n'a rien à voir avec celle de 1968. Alors cette année-là, évidemment, ce qui se passe influence aussi la musique et l'art. Et une comédie musicale va voir le jour à Broadway au début de l'année 68. C'est une comédie qui est emblématique de ce qui va se passer par la suite. Elle s'appelle Hair.
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars.
This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius.
Alors cette comédie musicale aura un succès absolument remarquable. Elle va être exploitée durant 4 années. 1742 représentations vont être données. Au-delà de ces 4 années, de nombreuses reprises vont avoir lieu. Et encore récemment, eh bien, on pouvait assister, par une nouvelle équipe bien sûr à chaque fois, à des représentations de R. Alors cette comédie musicale, évidemment, rompait avec la tradition américaine de la comédie musicale, puisque on y trouvait des jeunes gens chevelus, chemises à fleurs, qui chantaient le pacifisme, qui étaient contre la guerre. D'ailleurs, ça aura une influence dans la contestation de la guerre du Vietnam aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui chantaient aussi la nature. On a ironisé sur les petites fleurs, mais c'était profondément un attachement à la nature. Probablement que les mouvements écologistes prendront leur naissance à travers cette prise de conscience. Ils chantaient aussi la liberté de tous les domaines, peut-être à l'excès quelquefois. Et ils chantaient surtout l'amour, ils chantaient la concorde entre les êtres et entre les peuples. Ça vaut peut-être mieux que la guerre. Et c'était donc le fameux slogan « Make love, not war », qui dominait à cette époque. Alors il est un musicien qui commence à se faire connaître et qui enregistre un morceau qui s'appelle « Communication Breakdown », Led Zeppelin.
Yeah.
Alors, un son est né, bien entendu, avec Led Zeppelin. C'est la synthèse du blues, du rock et du jazz. Et on ne pourra plus ne plus avoir ce son dans l'oreille. Alors, côté jazz, tous les styles, toutes les écoles coexistent. On peut tout entendre, au point que certains musiciens tentent d'aller plus loin encore et de s'affranchir d'un certain nombre de règles harmoniques. Un d'entre eux sera l'un des chefs de file de cette tendance lourde. Peut-être d'ailleurs, ça aura des conséquences dramatiques pour cette musique. Il s'agit d'Ornette Coleman. Voilà, extrait de Love Call de Ornette Coleman. Alors, Ornette Coleman, c'est donc l'un des musiciens qui a amené le jazz à ce que l'on a, quelques années plus tard, appelé free jazz. D'ailleurs, en prenant le titre d'une composition de sa main. Il est né en 1930 au Texas. Il achète son premier saxophone à l'âge de 14 ans. Et le premier orchestre dans lequel il joue est celui de Silas Green. Puis il change d'orchestre parce que déjà son style était très controversé par les musiciens du pupitre, puisque donc dans le pupitre des saxophones, il détonnait quelque peu. Alors il va ensuite faire une carrière, il enregistrera un album Something Else en 1958 qui va être un tournant, parce qu'à partir de là, il va donc s'engager pour enregistrer quelques années plus tard Free Jazz qui va donner son nom à un courant courant qui va envahir pendant de trop nombreuses années, à mon sens, mais ça n'engage que moi, le jazz et lui faire perdre pied avec le grand public, et grand public qu'il ne parviendra plus à retrouver au-delà de ces années-là. Eh bien, en dehors du jazz, en France, il y a un musicien qui vient du jazz, qui a joué du jazz, qui en rejouera encore, qui compose, qui fait des musiques de films, qui est un musicien dont la carrière marque toute l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors on se dit, mais de qui s'agit-il, diable ? Eh bien, il s'agit de Serge Gainsbourg, dont les multiples étapes et phases de sa musique ont suivi les évolutions de la société. Et cette année-là, 1968, eh bien, il compose avec l'égérie du cinéma français et en écho à un film célèbre américain, Bonnie and Clyde.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Comment il vécu ? Comment il est mort ? Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi ?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie
Voilà, Bonnie and Clyde, évocation du film d'Arthur Penn, film mythique de Hollywood de ces années-là, qui est sorti d'ailleurs lui-même, le film, en 1968. Voilà, c'était le premier épisode de cette série consacrée à 68, toute la semaine. Demain, c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.